complicité, ma radio complicité. La vie du bon côté jusqu'à 15h avec Sylvie Honoré.
Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Rencontrer des difficultés pour concevoir un enfant représente une véritable angoisse pour de nombreux couples. Bien évidemment, dans le monde, on estime environ un couple sur 7 qui consulte afin d'être aidé pour concevoir un enfant, un couple sur 10 qui suit des traitements. Beaucoup de gens se sentent seuls quand ils apprennent qu'ils vont devoir recourir à l'assistance médicale à la procréation, entre les examens intrusifs, entre le diagnostic qui tombe comme un coup près, la découverte d'un monde ultra médicalisé, compréhension aussi de l'entourage, les traitements qu'il faut mener de front avec sa vie professionnelle. Bref, tout ça n'est pas simple à mener. Voici donc un guide illustré qui se propose, dites-vous, Audrey Malfionne et Audrey Leblanc, de défricher le parcours d'un couple infertile dans ce monde un peu flippant qu'est l'assistance médicale à la procréation. Alors Audrey Leblanc, vous êtes auteur du texte, vous êtes la littéraire.
On peut dire ça.
Et vous, Audrey Malfionne, vous êtes l'illustratrice.
Oui.
La graphiste.
Oui.
Du livre. Mm-hmm. Alors, je vous ai posé la question antenne en vous demandant, mais qui a commencé? Est-ce que quelqu'un a écrit, l'autre a dessiné? Ou est-ce que ça s'est fait, vous m'avez dit toutes les deux, non, ça s'est fait en commun, en fait, c'est ça?
Oui, tout à fait. On a travaillé un peu en parallèle, puis on mettait en commun régulièrement, et voilà.
Bon, alors, votre histoire à toutes les deux, elle commence... quand vous apprenez que votre couple devait se préparer à de sérieuses difficultés pour mettre en route la prochaine génération, ça part d'un blog, de votre blog à vous, Audrey, c'est ça? Vous avez écrit un blog sur le sujet?
Oui, j'ai raconté mon parcours,
votre parcours, ouais.
En AMP, et Audrey est tombée sur mon blog et elle m'a contactée, en fait. Elle m'a envoyé un mail pour me demander est-ce que ça te dirait d'écrire un bouquin sur la PMA. Moi, je suis illustratrice et voilà, je pense qu'on peut faire un truc ensemble. Et puis j'ai dit ok, on va peut-être d'abord se rencontrer et voir comment ça se passe entre nous. Et puis voilà, ça s'est bien passé puisque le livre est là.
Bon, ce que je retiens, c'est évidemment c'est l'humour, c'est la dédramatisation de la chose, même si c'est très informatif. Oui. On apprend plein de choses, on apprend à quoi ça, on va s'attendre. Vous madame, vous messieurs, à chaque fois c'est écrit comme tel quand on annonce la nouvelle, quand le couperet tombe, à quoi s'attendre au niveau des examens. Mais voilà, dès le départ, vous annoncez la couleur. Quand on lit les 10 commandements du couple infertile, hein, qui annonce la couleur de la suite, et parfois c'est vrai que, je dirais que c'est un peu de l'humour noir aussi, quand même.
Complètement.
Hein. C'est de la dérision, c'est de l'humour noir. Quelles ont été les réactions? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'en sont choquées en disant, on n'écrit pas ça comme ça, on n'a pas vécu ça de la même façon? Enfin, je sais pas, quel a été un petit peu le retour d'un guide comme ça?
Enfin, je pense 1% de mauvaises réactions, mais...
Ah oui, c'est ça. Sinon, les réactions sont bonnes.
Ah,
quoi.
Mais oui, elles sont excellentes. Ça aide énormément à dédramatiser et à prendre les choses avec légèreté.
Oui, c'est ça. Prendre les choses avec légèreté, les choses comme elles viennent. De toute façon, voilà, on peut pas mettre sa main devant. Vous y abordez donc avec humour et sans tabou les aspects médicaux, sociaux, psychologiques de l'infertilité. Et on va demander aux auditeurs comment garder peut-être patience quand on est dans pareille situation, comment pouvoir penser à autre chose qu'à ça, comment faire comprendre aux autres ce qu'on vit dans pareille situation sans être dans la plainte constamment, comment lâcher prise par rapport à ça et comment donner de la visibilité de ce qu'on traverse, mais sans tomber dans le psychodrame. Bien entendu, j'ai déjà vu un message qui va exactement dans ce sens-là. C'est Corinne, sur la page Facebook, qui écrit « Au-delà de toutes les difficultés, Sylvie, nous avons réussi, nous aussi, à garder notre sens de l'humour. Au bout de la patience qui a duré 5 ans, un magnifique bébé d'amour et de science, qui aura 15 ans samedi, et presque 4 ans plus tard, un bébé qu'on a fait tout seul comme des grands. Courage à tous les couples qui galère en ce moment, que la force et l'humour soient avec vous. Donc voilà, je pense qu'elle a peut-être pas lu le bouquin, mais c'est exactement...
Ah, mais c'est très bien condensé. Et puis alors, un bébé de la science et de l'amour, c'est tellement bien trouvé. Hein. Ah ouais. C'est exactement ça.
Ouais.
Bon, mais on va demander aux auditeurs aujourd'hui de s'exprimer à ce sujet. Moi, je vais feuilleter les pages de ce livre avec vous. J'ai relevé pas mal de choses à dire. Déjà, la phrase de Winston Churchill, c'est celle qui apparaît déjà avant l'introduction. Churchill a dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Ça veut tout dire et ça résume bien ce qu'il y a au fil des pages. Ce guide des couples infertiles sorti chez Care Edition 070-23-33-23. SMS 3063 via la page Facebook de l'émission La Vie du Bon Côté si vous souhaitez venir partager votre parcours et votre parcours concrètement et votre parcours aussi sans oublier peut-être le lâcher prise et quelques zones plus humoristiques qui vous sont arrivées, quelques étapes où vous avez pu en effet lâcher prise et souffler un peu sur le fait de ne penser qu'à ça. Ces chansons avec ce guide des couples infertiles par Audrey Leblanc et Audrey Malfionne qui sont nos invités aujourd'hui. C'est chez Care Edition, c'est avec beaucoup d'humour qu'elle défriche pour nous le parcours d'un couple infertile dans ce monde un peu flippant qu'est l'assistance médicale par procréation. Les aspects médicaux, sociaux, psychologiques de l'infertilité sont détaillés avec ces 10 commandements et je vais dans quelques instants vous demander de commenter l'un ou l'autre. Déjà le premier commandement qui annonce la couleur des autres. Un tri dans vos amis vous ferez. Voilà, ça c'est le premier commandement. Le quatrième, c'est votre pudeur au placard, vous mettrez. Dans votre dignité, vous vous draperez. Le cinquième commandement, un compte bancaire bien garni et une bonne mutuelle santé, vous aurez. Parce que là, vous parlez évidemment des frais. Vous en parlez, mais toujours avec beaucoup d'humour. Dans les actions Kleenex, vous investirez. Parce que vous dites aussi que vous avez beaucoup pleuré. Et donc, voilà, on lit ça finalement comme, je vais pas dire comme une histoire à l'eau de rose, mais malgré tout, on a l'impression en effet que ça passe beaucoup mieux pour celles, et là, je me place du côté de celles-là, qui n'ont pas eu à vivre ce genre de choses. Voilà, donc c'est ce décalage finalement que vous ramenez à zéro parce que on comprend mieux expliquer comme ça quand on n'a pas eu autour de soi des personnes qui vous l'ont expliqué dans d'autres mots. 070 23 33 23 SMS 3063. Est-ce que vous avez suivi vous aussi, est-ce que vous avez eu ce parcours aussi du combattant entre guillemets, est-ce que vous êtes passé par ces étapes-là, est-ce que vous avez pu prendre de la distance et vivre aussi avec un peu d'humour, un peu beaucoup, comme elles le font peut-être à certains moments, on peut pas dire que c'est tout le temps aussi. Venez prendre la parole, 3063 pour vos témoignages. Avec Audrey Leblanc, auteur du livre au niveau des textes, et Audrey Malfionne, illustratrice et graphiste du livre, le livre qui s'appelle Le guide des couples infertiles chez Care Edition. Je mettrai bien sûr le lien, vraiment le guide à mettre entre les mains de ceux et celles qui essaient, de ceux et celles qui n'ont jamais essayé, mais qui veulent comprendre un petit peu ceux et celles qui ont essayé, parce que c'est vrai que ça reste, malgré tout, et ça vous le dites aussi, l'une et l'autre, un sujet tabou. C'est pas le sujet, vous dites qu'on annonce entre la pomme et la poire dans les repas de famille, et ça vous en parlez beaucoup, c'est vraiment cette distance que vous devez d'avoir et en même temps cette autorisation où vous avez envie de prendre, de dire les choses.
Mais c'est de la sphère de l'intime quand même. Il y a beaucoup d'images qui sont, faire un enfant, on sait ce que ça veut dire. Donc oui, c'est déjà de l'intime. Et puis le fait de ne pas y arriver naturellement, c'est en plus de l'intime, c'est quand même une blessure narcissique, une blessure d'abord et une blessure narcissique ensuite. Donc oui, on n'en parle pas facilement. C'est pas ça qu'on a envie de mettre en avant de soi.
Oui, non, ça c'est sûr. Ça fait combien d'années que vous êtes dans le parcours, vous?
Alors moi, ça fait 5 ans.
Ouais, ouais.
Ça fait 5 ans et je tiens bon la barre.
Vous tenez bon la barre et vous?
Alors moi, j'ai une petite fille, ça a mis 7 ans et demi.
Ça a mis 7 ans et demi?
Oui.
Ok. Donc voilà, vous êtes toutes les deux. Et encore une fois, vous utilisez le terme d'assistance médicale à la procréation. Mm-hmm. C'est un terme qui regroupe...
C'est exactement la même chose que la PMA ou procréation médicalement assistée. C'est le terme officiel utilisé en France par les médecins.
Plus en France.
Voilà, c'est plus en France. Oui. Mais dans le langage courant, on dit PMA. Hein, oui. Voilà.
Oui,
Là, on a fait un peu les snowminards, on a utilisé le terme officiel.
AMP, voilà. Vous parlez d'AMP tout le long du bouquin. Assistance médicale à la procréation, ça dit bien ce que ça veut dire. Alors, dans les 10 commandements, je viens d'en citer certains. Mais c'est vrai que j'ai retenu les deux, parce que c'est les deux, on va dire, les deux qui font référence au lâcher-prise qu'on doit avoir dans ce genre de parcours. Le 9e commandement, c'est un substitut à bébé vous aurez. Et le 10e commandement, c'est la patience, vous apprendrez. Voilà, parce que en cours de route, il y a évidemment des moments de découragement. Et donc, un substitut à bébé vous aurez, je suppose que oui et non. Enfin, c'est vous, Audrey, puisque vous êtes toujours là, il n'y a pas encore eu d'enfant. Donc,
Moi, j'ai fait un livre. Oui. C'est un conseil difficile à donner aux autres. Mais, non, mais après, on a entendu hier qu'il y avait en Belgique, notamment des initiatives qui avaient été prises, notamment autour de thérapie, autour de l'art et de la créativité sur la base de l'infertilité. Tout est bon à prendre, que ce soit une thérapie, alors une psychothérapie ou autre chose, se mettre au sport. Enfin, il faut trouver quelque chose pour arriver à s'éloigner de ce monde médical. De cet échec un peu permanent quand on est dedans et que ça ne marche pas.
Ouais.
Peu importe, mais si vous voulez écrire un bouquin, ça marche bien, je le confirme.
Ouais. Et est-ce que vous êtes à l'affût de toutes les nouveautés médicales, de toutes les nouvelles expérimentations de la chose, ou justement là aussi vous prenez de la distance?
C'est pas aussi fulgurant que ça. On trouve pas de nouveaux traitements ou de nouvelles techniques tous les 6 mois. Donc ce qui est déjà en place est formidable. C'est pas la clé pour un bébé. Hein. Quand on entre en PMA, c'est évidemment pas une garantie d'enfant au bout. Il y a un facteur chance qui n'est pas à négliger. On a de toute façon, on bénéficie des techniques les plus à la pointe. Et je pense qu'en Belgique, vous êtes parmi les mieux lotis. Hein.
Ouais.
Mais voilà.
Bien. Premier témoignage, celui d'Hélène. Hélène, bonjour.
Bonjour Sylvie.
Ça fait 2 ans que vous avez commencé ce fameux traitement, Hélène.
Oui, en fait, on a commencé il y a 1 an à peu près. J'ai fait tous les examens.
Oui.
Et puis, quand on a découvert mon petit problème qui était apparemment juste un problème d'ovulation et des ovaires polykystiques, je crois, j'ai fait un premier traitement. Et ça m'a paru tellement douloureux, tellement difficile, ça m'a demandé tellement d'efforts psychologiques et physiques que j'ai arrêté. J'ai commencé le deuxième et puis j'ai dit non, j'arrête. Il faut que je me remette bien dans ma tête avant de pouvoir continuer. Et ici, j'ai fait un long travail sur moi-même et je me sens mieux. Donc j'ai repris rendez-vous chez le médecin pour recommencer un traitement, pour remettre en place les médicaments et tout ça au mois de juin. Parce que je suis enseignante et du coup, comme ça, je recommencerai pendant l'été. Et je serai plus calme et plus posée. Et voilà, mais je suis assez... j'étais confiante. Mais là, je suis inquiète en entendant votre invité qui dit qu'elle est encore dedans. Ça fait 5 ans, ça me...
On est des cas un peu longs.
Oui, elle m'a dit ça hors antenne. Elle dit, oui, mais je suis un cas un peu long. Mais...
oui, c'est pas du tout la moyenne. Non, il faut quand même rassurer les auditeurs. On n'est pas forcément représentatif.
Ouais, c'est pas pour ça que vous êtes là non plus, hein, en disant voilà, on est dans la représentation en effet. Hélène,
oui.
dans leur livre, elle parle avec beaucoup d'émotion aussi du moment, le choc de l'annonce quand on a le couperet donc qui tombe, quand on apprend, quand on a ces mots-là en tête, le c'est pas juste, le pourquoi nous. Est-ce que
Moi, je me le suis dit souvent,
oui.
Et je me dis surtout pourquoi moi, qu'est-ce que moi j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive à moi. J'ai tout, j'ai un travail, je vis avec quelqu'un depuis un certain temps, on a une maison, et pourquoi ça m'arrive à moi alors que je pourrais tout offrir à un enfant, et pourquoi à moi? Et maintenant, je me dis, la vie m'offre 2 ans supplémentaires pour que je sois... Enfin, pour qu'on fasse des choses à deux, donc j'essaye maintenant de me dire, profitez de ce temps où on n'est qu'à deux pour être à deux. Mmh. Et
ça,
pas
c'est
pour
bien.
Déprimer.
Mmh. Oui, bien, bien, bien. Mais c'est vrai que
Hein.
Oui, oui, oui. L'annonce, en effet, vous en parlez, page 109, le pourquoi nous, c'est pas juste, voilà, l'annonce qui arrive comme ça, et là-dessus, elle dit j'y pense souvent. Mm-hmm. Et vous qui en êtes à quelques années supplémentaires.
Il y a deux choses que moi j'ai retenues qui sont très intéressantes dans le témoignage et qu'on a à peu près toutes vécues. C'est le choc de l'annonce, et puis elle dit que ça l'a quand même beaucoup bouleversé physiquement et psychologiquement, et c'est quelque chose de très important, et c'est aussi pour ça qu'on insiste là-dessus dans le livre, c'est que personne n'est préparé à ça. C'est une grosse gifle, donc elle a fait le choix qui est incroyablement mature de se mettre en pause. C'est absolument pas facile de mettre une petite parenthèse là-dedans en se disant je vais souffler, je vais essayer d'aller mieux. Ça d'une part, et puis elle parle de son métier d'institutrice. Il y a aussi la difficulté de combiner un emploi du temps professionnel avec l'emploi du temps du centre médical.
Dû à ça, ouais.
Qui est très compliqué. Alors voilà, ça c'est vraiment deux aspects dans le témoignage qui font que parfois c'est bien de pouvoir se mettre en pause, ou alors parfois c'est même indispensable.
Ouais, parce que ça aussi vous en parlez en effet de la vie en assistance médicale procréation à combiner avec sa vie professionnelle. Quoi. Mmh. Ça aussi c'est quelque chose auquel il faut faire face. Face à ça, il faut mettre en place des choses, et c'est vrai que Hélène le fait, en tout cas, on l'entend, dans un certain équilibre. Mmh. 070 23 33 23 SMS 30 63 si vous souhaitez venir prendre part à la conversation d'aujourd'hui. On est content de coller finalement à l'actualité. On peut pas mieux coller puisque le guide sort aujourd'hui en librairie en Belgique, hein. Le guide des couples infertiles qu'on vous présente aujourd'hui. Donc il sort aujourd'hui par Audrey Leblanc et Audrey Malfionne chez Care Édition. Alors, ce que vous le dites aussi, la notion du temps en assistance médicale par procréation, qui est une notion complètement différente de ceux et celles qui ne sont pas passés par là. Le temps passe lentement, très lentement, quand on est infertile. Et c'est là qu'il faut apprendre la patience. Est-ce que vous étiez des personnes patiente avant?
Non.
C'est vrai? Je sais pas pourquoi, oui. Mais en vous regardant, je me dis, à mon avis, elle est moins patiente que l'autre.
Oui, c'est vrai.
De l'autre côté de la table, je vous sens plus...
Non, mais on apprend à l'être par la force des choses. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, on apprend à l'être, bon an, mal an.
Mais vous apprenez... Et alors, vous l'êtes pour autre chose, ou bien vous faites la distinction entre le...
Ah non, je fais des efforts pour l'être.
Pour
je,
tout.
Je mets toute ma capacité de patience dans l'AMP. Je suis absolument pas patiente pour tout le reste. J'ai tout mis dans l'AMP et l'infertilité.
Dis, moi je suis plutôt de nature patiente. Ça paraît quand même très très long la PMA quand on... Même, enfin je veux dire, je pense que quand on a un désir d'enfant, on n'imagine pas attendre plusieurs années pour l'avoir. C'est le désir, il est immédiat et on s'attend à attendre les 9 mois de la grossesse, mais pas beaucoup plus. Quoi.
Surtout que quand on arrive en PMA, ça veut dire qu'on a patienté normalement quelques temps en essai naturel. Donc la patience, elle a déjà été mise à mal. Donc, c'est vrai que quand on arrive en PMA, la patience, on la jette aux orties et on a envie que ça marche tout de suite. Et
tout
évidemment, ça ne marche pas toujours tout de suite, loin s'en faut. Donc voilà.
Ouais. Il y a la patience à deux vitesses aussi, puisqu'on est deux dans le fait de procréer. Monsieur vit un peu au rythme des cycles de Madame. C'est comme ça que ça se fait. Donc est-ce que ça s'apprend tout seul pour lui, ou est-ce que c'est Madame qui doit lui apprendre
Alors les hommes ont un vécu qui est complètement différent, parce qu'il est un peu indirect, ils sont un peu en marge quand même, parce qu'on leur en demande beaucoup moins forcément, parce que tout se passe dans le corps de la femme, quelle que soit l'infertilité, qu'elle soit masculine ou féminine, tout se passe dans le corps de la femme. Les traitements, il n'y a pas de traitement pour les hommes à proprement parler, donc étant donné qu'ils sont un peu moins c'est pas concerné ni investi, mais en tout cas on leur en demande un peu moins qu'aux femmes, donc la patience c'est pas la même en fait, c'est assez différent. Ils sont peut-être un peu plus passifs. Je dis pas que c'est volontaire, hein, c'est par la force des choses, donc la patience c'est pas la même. Je pense que
oui, puis en plus je pense que la pression à devenir parent s'exerce pas de la même façon sur les hommes et sur les femmes. On accepte que des hommes n'aient pas d'enfants, on a beaucoup plus de mal à accepter l'idée que des femmes n'aient pas d'enfants. Ça devient tout de suite suspect, alors qu'elles les choisissent ou pas d'ailleurs, hein, tout le monde en prend pour son grade. C'est toujours quelque chose de pas normal, quoi. Ouais. Enfin voilà. Donc les hommes ressentent moins cette pression. Ils ont pas aussi le couperet de
l'horloge biologique,
puisqu'ils restent fertiles très tardivement.
Ouais.
Nous on sait que passé 35-40 ans, ça commence à devenir très difficile.
Ouais.
Donc voilà, forcément on peut pas vivre les choses de la même façon, et encore une fois c'est nous qui subissons les traitements. Donc,
ça se fait quand même à deux vitesses. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie? Bonjour.
Bonjour.
Sophie.
Justement, nous, on est à notre cinquième, et je me retrouvais complètement dans ce qui était dit. C'est vrai que les hommes ont quand même Moi, à mon sens, c'est un peu plus facile, parce que c'est vrai que nous, bon, ben, tous les, allez, pour ma part, tous les 3-5 jours, c'est clinique, et on n'est pas toujours là. On lui demande une fois par mois de venir, mm-hmm. mais sinon, c'est vrai qu'ils ont un petit peu plus facile. Mais sinon, oui, c'est vrai que la patience, au début, on n'en a pas trop. On est un peu impatient, mais par la force des choses, il faut que ça vienne.
On n'a pas le choix. Voilà. Vous en êtes à votre 5e cycle d'insémination, c'est ça, dites-vous ?
Oui, c'est ça. Oui. On a essayé pendant un peu plus d'un an. Heureusement, bon, il y a des gens qui attendent plus longtemps avant de passer par les tests. Nous, au bout d'un an, naturellement, on s'est dit, bon, on va essayer. Si les tests sont bons, voilà, on prend notre mal en patience. Et si les tests sont mauvais, bon, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Malheureusement, les tests n'étaient pas bons. Et voilà, on s'est lancé dans les inséminations. Et voilà, si la 6e ne fonctionne pas, là, on passe aux choses sérieuses, aux FIV.
Merci en tout cas, Sophie. Et bon courage. Et c'est ce que vous écrivez aussi dans votre message à toutes les personnes qui sont dans le cas 070-23-33-23, SMS 30-60. Et Audrey Leblanc et Audrey Malfionne, parce qu'il y a du texte, il y a des illustrations. C'est pratiquement 50-50. Il y a beaucoup d'informations et il y a beaucoup d'humour. Voilà, tout y est encore une fois. On lit ça comme on lirait finalement l'histoire, une histoire un peu romancée, mais c'est votre histoire et derrière ça il y a vos parcours à toutes les deux. On a beaucoup de témoignages sur la page des SMS. Nous on a attendu Sylvie 14 ans et on a des jumelles de 9 ans. Que du bonheur. Encore ce message. On se sent parfois très très seule, nous les femmes, car nos hommes ne peuvent pas faire grand chose à part donner leur petit don de spermatozoïdes. Courage, il faut y croire. Sophie, nous aussi un an sans rien. 5 inséminations et une seule FIV. Nous avons des jumeaux de 18 ans, un garçon et une fille. Gardez confiance et patience. C'est une auditrice de Liège. Sandrine, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Sandrine. Alors, votre traitement actuellement, c'est la fécondation in vitro.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Vous y êtes.
On y est.
Vous y êtes. Et vous dites, c'est la phase la plus dure.
Le plus difficile dans la fécondation in vitro, c'est l'attente. C'est les 14 jours d'attente à partir du transfert d'embryon. Donc le protocole, qu'il soit long ou court, est relativement simple si on suit correctement chaque étape. Et dans notre cas, le plus difficile, et je pense pour toutes, c'est les 14 jours d'attente pour savoir si cet embryon, bien qu'il ait été déposé dans la cavité utérine, c'est une idée ou pas. Et ça, c'est la nature qui décide. Et malheureusement, on croit parfois qu'une fois que l'embryon est dans l'utérus, ça y est, mais non, il doit encore son idée. Et ça, c'est seule la nature qui décide. Et ça, c'est le plus difficile, c'est l'attente.
Oui, alors que l'attente, elle est là depuis longtemps, quoi. Hein, mais comme vous dites, cette période de 14 jours, elle est super importante. Quand vous dites c'est la nature qui décide, est-ce que vous connaissez la raison de votre infertilité, Sandrine ?
Alors dans notre cas, c'est un peu plus compliqué dans le sens où c'est une infertilité inexpliquée. Donc à chaque étape et chaque examen, on aurait souhaité trouver quelque chose. Dans notre cas, ni l'un ni l'autre. Et c'est ça, c'est le plus dur pour nous, c'est de se dire, hors du corps, tout fonctionne très bien. Et donc, on espère, bien entendu, que cette fécondation in vitro va nous donner un beau bébé. Parce que, en effet, si ça ne fonctionnait pas, on se dit, alors là, c'est clairement qu'à l'intérieur, il pourrait y avoir quelque chose qui bloque. Et donc là, c'est vrai que ces 14 jours nous mettent un peu face à la réalité de tout ce qu'on a attendu, puisque nous, ça faisait 4 ans que nous attendions. Et là, en fait, tous les lâcher-prise reviennent. Ces 14 jours, c'est très difficile pour lâcher-prise. On est vraiment face à toutes ces angoisses qu'on a eues pendant les 4 ans d'attente. Et pour la femme, très certainement, tout revient. Et le lâcher-prise me semble quasi impossible pendant ces 14 jours d'attente.
Voilà. 14 jours donc sur lesquels on peut pas lâcher prise, dit Sandrine. Audrey,
parce que en fait ces 14 jours là c'est vraiment le sommet du château de cartes qu'on a patiemment construit, le traitement, enfin les examens, le lancement du protocole, le traitement et puis ce transfert d'embryon. Elle l'a bien dit d'ailleurs, c'est un transfert d'embryon et pas une implantation, parce que ça aussi on mélange un petit peu les termes. Et ce qui est très difficile, c'est que donc on vient transférer cet embryon dans l'utérus et non pas l'implanter. L'implantation, elle se fait ou elle se fait pas, c'est l'embryon qui décide. Enfin, c'est une alchimie très compliquée entre l'utérus et l'embryon. Et donc, oui, on est vraiment au sommet de ce château de cartes et c'est à ce moment-là où le succès est au rendez-vous, ou alors il va se casser la figure, il va falloir tout ramasser et recommencer. Et je vous assure que le sommet suivant nous paraît tellement loin et haut et inatteignable. Donc oui, moi je la comprends tout à fait. On n'a pas la recette universelle pour cette période-là. Elle est longue et elle est compliquée pour tout le monde.
C'est ça. Et si je vais poser la question à Sandrine, c'est parce que dans votre livre, Audrey, vous avez fait quelques recherches par rapport aux causes. Oui. Mais c'est expliqué simplement, puisqu'encore une fois, quand on n'est pas confronté à la situation, on a difficile de comprendre tous ces termes abordés. Mais vous avez expliqué simplement les causes de l'infertilité féminine, l'infertilité masculine, et puis l'infertilité inexpliquée.
Ça effectivement, aussi. Comme le dit Sandrine, je pense que c'est une situation extrêmement angoissante parce que tout dit que ça devrait fonctionner et ça ne fonctionne pas.
Ouais.
Alors on peut se demander qu'est-ce que si la nature, alors que tout est fait pour qu'elle fasse son travail, n'y arrive pas, en quoi la médecine va pouvoir nous aider? Évidemment, si on ne sait pas d'où vient le problème, on ne peut pas non plus trouver la solution. Donc je pense que c'est mon point de vue, mais je pense que Sandrine l'a dit aussi, ça doit être la situation la plus difficile à vivre, parce qu'on ne sait pas, et ça peut être nous, ça peut être le conjoint, ça peut être rien du tout, juste un coup de pas de bol, hein, aussi statistiquement parlant. on peut aussi se retrouver systématiquement du mauvais côté de la barrière. Voilà. Et effectivement, elle le dit aussi, les 14 jours qui précèdent la prise de sang, c'est des jours qui... C'est l'aboutissement de toute cette attente, de tous nos efforts. C'est très difficile à vivre. C'est peut-être encore un petit peu plus difficile à vivre dans la fécondation in vitro parce qu'on sait qu'il y a des embryons.
C'est ça.
Dans une insémination artificielle, on dépose le sperme dans l'utérus de la femme, mais on ne sait pas à quel moment ça ne fonctionne pas. On peut imaginer qu'en fait, c'est les spermatozoïdes qui n'ont pas trouvé la bonne direction, qui sont allés du côté de la trompe gauche alors qu'il fallait aller du côté de la trompe droite. Dans la fécondation in vitro, il y a eu la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte. Il y a un début de vie qui s'est créé, on nous a remis ce début de vie dans l'utérus et ça prend ou ça ne prend pas, mais c'est vrai que du coup c'est d'autant plus chargé émotionnellement que nous ces embryons ce sont nos possibles futurs enfants, donc dans nos têtes on les a déjà, ils ont déjà commencé à exister.
Si je peux me permettre, parler de quelque chose d'important, donc dans le cas de Sandrine c'est une infertilité inexpliquée, donc au-delà de tout ce que Audrey a dit, la difficulté, c'est qu'on est en proie encore plus que dans les autres cas d'infertilité au mythe qui entoure l'infertilité, c'est-à-dire le fameux cas psychologique, en fait. Donc peut-être que Sandrine, elle en a pas parlé, mais c'est le cas le plus typique où on va vous asséner des conseils ou des diagnostics qui sont psychologiques, alors que personne ne le sait, personne n'est en mesure aujourd'hui de dire qu'il n'y a vraiment aucune cause médicale. En tout cas, à l'heure actuelle, on n'est pas capable de mettre un diagnostic là-dessus. Mais c'est vrai que les infertilités inexpliquées plus que les autres ont leur lot de tu devrais arrêter d'y penser, il faut lâcher prise, c'est toi qui bloques le processus, etc. Ça, c'est un peu compliqué.
Oui, mais ça, on y reviendra parce que c'est vrai qu'on a des messages de cet ordre-là et vous avez des choses à dire par rapport à ça. 070 23 33 23 SMS 3060. Le guide des couples infertiles, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui, écrit par Audrey Malfion et Audrey Leblanc. C'est bourré d'humour, mais c'est aussi plein de d'informations, et c'est vrai qu'à la fin du livre, pour en savoir plus, il y a tout un glossaire sur les thèmes employés, parce que c'est pas évident de s'y retrouver. Voilà, c'est pas évident de s'y retrouver, donc il fallait mettre ça, Audrey.
Mais à la fin du livre, vous apprenez une nouvelle langue en rentrant.
Nous
aussi, en y arrivant, on maîtrise rien de tous ces termes là et c'est au fur et à mesure, et parce que c'est une nouvelle langue qu'on nous parle,
bien que vous ayez de nouveaux meilleurs amis qui sont les médecins, tout le staff médical vous en parlez, vous dites ça devient nos nouveaux meilleurs amis, quoi.
Ou pas. En tout cas, ils sont très présents dans notre vie, autant que nos amis.
Ben oui, c'est ça. Et
on les voit même plus souvent, des fois.
C'est ça. Et c'est là que les illustrations interviennent, et c'est là que c'est bourré d'humour, parce que, en effet, ils prennent un peu trop la place dans votre vie, et ils sont partout. Mm-hmm. Partout chez vous, partout dans votre quotidien. On continuera à présenter ce livre juste après le flash de 14h. Continuez à témoigner sur vos expériences de vie à vous, en AMP, si vous souhaitez prendre part à la conversation 3063 pour vous. Avec deux Audrey, mais mes côtés Audrey Leblanc et Audrey Malfionnel, toutes les deux auteurs et illustratrices graphistes de ce livre qui s'appelle Le guide des couples infertiles et qui sort aujourd'hui même dans toutes les librairies chez Cœur Édition. Le lien est en ligne sur la page Facebook de l'émission si vous souhaitez donc en savoir plus sur ce guide bourré d'humour. Il y a à la page 153 le chapitre Les infertiles versus tous les autres, un sujet encore tabou, c'est vrai qu'on a commencé par là. C'est vrai que c'est difficile de parler de son infertilité. Assumer son infertilité reste difficile, dites-vous toutes les deux, bien que le sujet soit régulièrement traité dans les médias, il fait l'objet de bon nombre d'idées reçues. La maternité est intimement liée à la féminité, les femmes sans enfants sont regardées avec suspicion, vous en parliez Audrey, et c'est vrai que vous dites aussi quelque chose de malheureusement qui aussi reste cliché, qui fait l'objet de d'idées reçues dans la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour les hommes, c'est pire, dites-vous. L'infertilité masculine est encore trop souvent confondue avec l'impuissance. Oui. Et donc, c'est vrai quand on se dit qu'ils ont peut-être moins de choses, enfin, face auxquelles ils doivent réagir en tant que, parce que nous, les femmes, on est peut-être les premières sous les feux du projecteur. Ça, c'est quelque chose d'important à dire aussi.
Oui. Pour l'homme. C'est peut-être pour ça qu'ils ont encore plus de mal que nous parfois peut-être. À s'exprimer. C'est que le distinguo est pas toujours fait. Et alors que oui, on veut être clair là-dessus, ça n'a rien à voir. L'impuissance et l'infertilité, absolument rien. Enfin, en tout cas. Dans 99% des cas.
Donc, oui, on peut cumuler, hein, mais en général, les deux ne sont pas liés.
Une bonne façon d'avoir la paix, dites-vous aussi, c'est de mettre les gens au courant.
Oui.
Par rapport à la pression, parce que sinon, vous avez constamment la question. Et alors, quand est-ce que vous vous y mettez? Alors, c'est une façon d'avoir la paix. Disons qu'au moins, les gens savent pourquoi vous y êtes pas mis. Après, du coup, ça engendre un certain nombre de réflexions qui peuvent être plus ou moins blessantes, qui sont en tout cas souvent maladroites de l'entourage parce qu'ils ne savent pas ce que c'est et qu'ils répètent ce qu'ils croient connaître de l'infertilité. Et parfois, c'est pas ce que nous, on vit en tout cas. Quoi.
Ouais. Puis, merde, dites-vous, l'infertilité n'est pas une maladie honteuse.
Non.
Hein?
Ah non.
Ouais, il faut le savoir. Donc c'est clair que c'est quelque chose de clairement exprimé et c'est vrai qu'on le comprend parfaitement. Florilège de phrases et attitudes qui tuent. Alors ça fait sourire et pourtant. Et vous, quand est-ce que vous vous y mettez? Ben voilà, au moins c'est clair. Si ça a été dit, c'est fait, on va dire. C'est parce que t'as pris la pilule trop longtemps, ça t'a déréglé.
Oui. Là, ce mythe.
Vous l'avez entendu ça.
Non, ce qu'il faut dire, c'est que la pilule peut masquer des problèmes. Parce que quand on est sous pilule, on a des cycles artificiels avec de fausses règles. Mais quand on arrête la pilule, parfois les règles ne reviennent pas, les cycles sont très aléatoires. Mais ce n'est pas la pilule qui est à l'origine de ça. C'est juste que la pilule a masqué un problème déjà existant. Par exemple, l'endométriose, qui est une maladie où la muqueuse de l'utérus envahit les organes alentours et qui peut être extrêmement douloureuse. Sous pilule, forcément, elle est en stand-by. Mais quand vous allez arrêter vos contraceptions, si vous avez l'endométriose, elle va revenir puisqu'on ne sait pas guérir l'endométriose. Mais non, la pilule ne rend pas stérile, ça il faut le dire. Elle protège une grossesse non désirée, mais elle n'empêche pas d'avoir une grossesse désirée normalement.
Et ben voilà, ça aussi c'est exprimé avec beaucoup d'humour dans le livre, mais c'est une information qui passe plus facilement par rapport à cela. Marie, bonjour.
Oui, bonjour.
Marie, merci pour votre témoignage. Alors, vous dites d'abord un petit message, vous voulez diffuser un petit message d'espoir pour tous les couples qui sont en essai bébé, dites-vous. Pas de problème de fertilité dans notre couple, mais suite à une maladie génétique, vous avez eu recours à, alors là, FIV, DPI, ICSI. Ce sont des mots que les deux Audrey connaissent bien mieux que moi. Et vous parlez d'un parcours pour avoir son test génétique prêt, qui est aussi très long.
Oui, voilà. Mais je vous avoue que je ne m'attendais pas à passer à l'antenne, donc ça va être compliqué pour parler.
Compliqué pourquoi ?
Il faut oser.
Oui, mais bon, voilà. Simplement, qu'est-ce que vous voulez dire par le parcours pour avoir son test génétique prêt et très long ?
Vous me prenez au dépourvu.
Ah.
Oui. c'est que quand on a une maladie génétique, pour ne pas la retransmettre à son enfant, il faut déterminer sur le gène d'où vient la maladie, quel gène est malade en fait. Donc je vais avoir du mal à m'exprimer, je suis désolée.
C'est pas grave. Bon, premier essai gagnant pour vous. Donc ça veut dire, vous dites, j'ai eu beaucoup de chance. Donc voilà, ça, exactement. Vous en êtes consciente, premier essai gagnant, ça veut dire que le timing et la période d'attente, elle se situe entre quand et quand?
Mais déjà, pour avoir mon test de génétique prêt, j'ai dû attendre quand même un an.
Ah oui.
Oui, j'ai dû aller voir... Je ne retrouve plus mes mots. Oh, je suis désolée.
Mais c'est pas grave. Bon, votre bébé a un mois aujourd'hui, Marie.
Voilà, mon bébé a un mois. Et bon, tout va bien. Mais c'est vrai que j'ai pris votre...
émission en cours.
Votre émission en cours. Et à entendre les témoignages, même si moi, je ne suis pas infertile, le fait d'avoir fait le parcours FIV m'a... Enfin, j'ai eu les larmes aux yeux. Et je voulais simplement envoyer un petit message. En fait, je ne pensais pas passer à l'antenne. Voilà.
Il n'y a pas de problème. Bon, donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs, raisons. Elle, donc, c'est à la suite d'une maladie génétique qu'elle a eu recours à cela. Et c'est vrai que elle n'est pas la seule à avoir envoyé un message comme ça et simplement un petit message d'espoir des personnes qui se retrouvent dans ce que vous avez écrit et dans ce qu'on est en train de dire depuis 13 heures et qui, de toute façon, ont vécu ce que d'autres ont vécu. J'ai l'impression que jusqu'à présent, les parcours sont sensiblement pareils. En tout cas, les critères, les degrés d'acceptation, de résignation, de passer d'une phase à l'autre.
Comme le disait l'auditrice, en fait, donc elle a pas de problème d'infertilité en soi, simplement une maladie génétique qui peut être dont le bébé peut hériter. Donc toute la difficulté va être de pouvoir déterminer les cellules qui vont être à l'origine de cette maladie et en fait de sélectionner les embryons obtenus pour pouvoir en transférer un qui sera sain et dont l'enfant sera exempt en fait. Donc elle n'est pas infertile et pour autant elle peut plus compter sur la nature pour avoir cet enfant sain entre guillemets. Donc oui, elle sera comme nous de toute façon esclave d'une technique médicale, donc d'un staff médical. Donc cette attente, enfin cette incertitude. Donc oui, je comprends tout à fait. On est dans le même bateau. Hein.
On peut peut-être expliquer que Marie a fait une fécondation in vitro ICSI. Donc ICSI, c'est une méthode qui consiste à prendre un spermatozoïde et à l'injecter directement dans l'ovocyte. Et la DPI, c'est le diagnostic préimplantatoire. Donc quand il y a des embryons, on prélève une cellule de cet embryon et on regarde s'il est porteur de la maladie ou pas. Mmh. Donc c'est ça qu'elle a fait, Marie. Donc ça a marché du premier coup. On est très heureuse pour elle. Voilà, félicitations. Bienvenue à son bébé.
C'est des notes d'espoir aussi.
Oui, voilà. Il faut le dire, hein, des fois, ça marche du premier coup.
Voilà.
Donc c'est pas une cause d'infertilité, mais les conséquences, le diagnostic préimplantatoire, c'est vraiment réservé à des cas de transmission de maladies qui sont gravissimes pour l'enfant, qui peuvent être mortelles ou en tout cas avoir des conséquences sur toute sa vie qui sont très très lourdes. Mmh. Donc c'est pas un caprice. En plus, il y a peu de centres, que ce soit en France ou en Belgique, qui pratiquent cette technique. Donc les délais d'attente sont aussi très longs. Donc je pense que c'est de ça dont elle voulait parler quand elle disait qu'elle a eu du temps pour avoir son test génétique. Je crois qu'en Belgique, il y a Bruxelles qui le fait. Je ne sais pas. Il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Et en France, il y en a 4.
Ah oui, d'accord.
Voilà, sur toute la France.
Je ne peux pas vous aider par rapport à ça.
Non, mais je sais, mais comme je me dis qu'il y a des gens qui écoutent et qui doivent se dire mais de quoi elle parle, voilà, au moins ils savent. Effectivement, l'attente de l'enfant reste de toute façon la même. La douleur reste la même. J'imagine que pour les couples qui sont porteurs d'une maladie qu'ils peuvent transmettre à leur enfant, il doit y avoir énormément de culpabilité. Souvent des parcours très, très douloureux aussi. Donc,
Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on va quand même demander encore à toutes ces personnes qui veulent témoigner, de réagir. 070 23 33 23 SMS 30 63 via la page Facebook de l'émission. On parcourt ensemble depuis 13 heures ce guide des couples infertiles. Audrey Leblanc, Audrey Malfionne sont les auteurs de ce livre. Et puisque nous étions il y a quelques instants dans ce florilège de phrases et attitudes qui tuent, il y a la fameuse phrase qui tue. Moi je pense, enfin c'est vous qui m'en avez parlé aussi en antenne, ça va marcher, il n'y a pas de raison. Hein, ou encore c'est dans la tête, arrête d'y penser et ça viendra tout seul. Et là je vous ai lu toutes les deux des messages, et notamment un message d'un homme, mais voilà, il passe un peu par rapport aux autres comme un message qui signale les mêmes choses. Geoffroy nous écrit: ce qui a été difficile pour nous, Sylvie, a été la suite de déceptions répétées. Nous avions beaucoup d'espoir en commençant, ans, la PMA, mais ce n'est pas de la magie. Une fois que nous avons compris cela, nous avons pu relativiser les événements. Nous avons maintenant 3 enfants. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des messages comme ça de personnes qui nous ont dit, on a lâché prise, mais vraiment lâché prise, on a tout arrêté, mm-hmm. et ça s'est mis en place, quoi. Mm-hmm. Comme quoi, il faut laisser faire Dame Nature, comme mm-hmm. quoi, mm-hmm. voilà, Dame Nature a repris ses droits. Et par rapport à ça, vous voulez dire quelque chose, Audrey?
Non, mais encore faut-il réussir à lâcher prise, parce que c'est pas comme si c'était quelque chose qu'on décidait et puis qu'on décide un dimanche et puis qu'on pouvait faire le lundi. C'est absolument pas comme ça que ça se passe. Donc oui, lâcher prise, quand on parle de son parcours de PMA, oui, il est toujours possible. Et parfois, il faut le faire. Quand on le sent, il faut vraiment le faire. Il faut arrêter, il faut se donner du temps et peut-être arrêter définitivement. Je crois qu'il y a une grande proportion de couples qui arrêtent après la première tentative, oui. parce que c'est trop dur. Et ben tant mieux. Enfin, il faut eux aussi les déculpabiliser. C'est vous qui le sentez. Vous êtes assez grand pour prendre vos responsabilités. Et tant mieux si ça marche après. Mais nous, le problème qu'on a et qu'on défend dans ce livre, c'est dans la tête. Ça, on ne veut plus l'entendre et on voudrait que plus personne ne le dise.
Mmh. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que la plupart des couples ne sont pas stériles. Ils sont hypofertiles, c'est-à-dire qu'ils ont peu de chances de concevoir naturellement. Mais que ces chances-là ne sont pas nulles. Donc forcément, mathématiquement, dans le lot de tous les couples qui passent par la PMA, il y en a certains qui vont finir par obtenir une grossesse naturellement. Tant mieux pour eux. Mais il faudrait pas non plus qu'on fasse croire que c'est d'arrêter d'y penser qui fait qu'on va tomber enceinte. Ça marche pas comme ça. Moi, c'est ce que j'ai coutume de dire, c'est que les femmes qui n'ont pas d'utérus, elles ont beau lâcher prise, elles ont beau arrêter d'y penser, de partir en vacances, elles peuvent adopter, elles ne tomberont pas enceinte tout simplement parce que naturellement, il y a un obstacle qu'on ne sait pas contourner. Mmh, mmh. Voilà.
Bien sûr. Dans quelques instants, c'est Véronique qui prendra la parole. 3 grossesses naturelles, je pense, dit Véronique, qui a pris l'émission en cours. Voilà. Mais avant ça, il y a eu beaucoup, beaucoup d'années de traitement, d'infertilité inexpliquée. Elle vient nous parler de son expérience à elle. Véronique, bonjour.
Bonjour.
Alors, 5 ans de traitement, Véronique. Alors, on va vous faire penser à tout ça. Hein.
C'est loin, parce que ma fille, effectivement, va avoir 14 ans.
Ouais.
Alors, c'est 5 ans plus les 14 ans. Donc, les 5 ans ont été partagés entre une série, je ne me souviens plus très bien, si c'est 2, 3 ans où on a fait les tentatives, où je ne retrouve plus le mot, où on m'a transféré uniquement le sperme de mon mari et puis on a attendu de voir ce qui se passait. Rien du tout. Voilà, l'insémination. Il faut évidemment un certain nombre de temps entre chaque insémination. On a recommencé. On avait fait tous les tests d'un côté comme de l'autre pour voir s'il y avait quelque chose chez nous. Il n'y avait rien du tout. Donc, on espérait toujours. Ensuite, bon, à un certain moment, on a dit maintenant, c'est stop. On va faire autre chose. On est passé sur les fibres. Et au niveau des fibres, on a fait une première expérience qui n'est pas la ICSI qui est l'autre. Donc, où on met simplement aléatoirement ensemble. Comme je dis, on met dans une petite boîte, on secoue et on attend que ça se passe.
C'est la fécondation vitro classique.
Classique, voilà. À ce niveau-là, on me l'a, en fait, on n'a pas pu me les transférer parce qu'ils ont tous dégénéré suite à un problème inopiné d'une gastro de mon époux, malheureusement. Oui. Voilà, peu importe. Deuxième tentative, étant donné que la première tentative, les résultats au niveau des prises de fécondation n'étaient pas très très bonnes, on a décidé de faire une partie classique et une partie ICSI. Mm-hmm. Là, on en a eu seulement un ou deux qui avaient été fécondés, qu'on m'a transféré et malheureusement, j'ai fait une contraction utérine qui me les a rejetés aussi vite qu'on me les avait transférés. Donc, deuxième grosse déception. Mais on n'a pas perdu courage, on s'est dit, bon, on recommence. Je m'étais fixé 4 tentatives, et la troisième, là, ils n'ont fait que de l'ICSI.
Oui.
Et on m'en a réimplanté 3. Et sur les 3, il y en a un qui s'est accroché. Voilà. Et ensuite, donc ma fille est née. Et puis, c'est vrai qu'on a lâché, quand je dis on a lâché prise, effectivement, on savait qu'on avait dans le stock, je dirais, quelques embryons congelés. Et on s'était dit, ben, si je n'étais pas enceinte naturellement au bout d'un an, ben, on savait qu'on avait une solution médicale. Mm-hmm. Et il se fait que bah, je suis tombée enceinte assez rapidement, puisque l'écart entre mes 2 enfants est de 18 mois.
Ah oui.
Après le deuxième, on s'est dit bah, la même chose. On en voulait un troisième, on s'est dit la même chose, on verra bien. Bon là, il nous a fallu juste le temps de décider un peu plus tard, parce que deux, déjà à la fois, parce que ce n'est pas des jumeaux, mais la charge de travail. Puis on s'est dit, bon, très bien, un troisième, on va essayer. Et de nouveau, pouf, il a suffi d'y penser, je veux dire, surtout que c'était bon.
Et donc, comme voilà. Quoi,
et donc, il y en a eu trois, voilà, il y a eu trois grossesses d'affilée, puisque il y a 18, 27 et 31 mois d'écart entre mes enfants.
Ouais, quatre enfants.
Et voilà.
Et vous dites,
et voilà, donc, Véronique, faut pas être désespérée.
Savoir que nous avions les embryons en réserve a probablement facilité de lâcher prise.
Oui, c'est le lâcher prise, puisque justement, comme nous savions que nous avions la possibilité d'une aide médicale avec des embryons déjà existants et congelés dans le processus, mais on avait une alternative. Donc, ça avait fonctionné une fois, ça pouvait refonctionner grâce à ces embryons. Et donc, effectivement, ça nous a permis, je pense, de lâcher prise en disant, ben, ça vient pas naturellement, on a une solution.
Ouais. Je peux vous poser aussi une question, qui on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais c'est dans le livre tout à la fin, bien sûr. C'est la vie après l'AMP, l'assistance médicale à la procréation. Être parent après l'AMP, faut-il dire à son enfant, se demande nos deux invités d'aujourd'hui. La question est posée en tout cas. Faut-il dire à son enfant qu'il a été conçu grâce à un don de sperme ou d'ovocytes? Vous qui avez justement quatre enfants, trois grossesses naturelles, une qui est née après des années de traitement.
Notre fille aînée ne le sait pas encore, mais notre but est de le dire. De le lui dire quand elle sera prête à l'entendre. Quand elle sera prête à l'entendre, peut-être quand le sujet sera abordé à l'école, dans la sexualité, ou que le sujet de l'in vitro arrivera, et on le lui dira. Nos amis le savent, nos entourages le savent. Donc, beaucoup de gens le savent, et beaucoup de gens savent que ma fille ne le sait pas. Oui. Mais le but est de le lui dire le moment opportun, et je ne pense pas que ça lui posera un problème, parce qu'elle comprendra réellement que quelque part, elle est sans elle, il n'y aurait peut-être pas eu ses frères et sœurs.
Est-ce que vous pensez que ça va être vraiment abordé à l'école?
Non, je veux dire, le problème, c'est pas le problème qui sera abordé à l'école, mais je pense que peut-être le problème de sexualité, ou quand elle va revenir avec moi, enfin, revenir chez nous en parlant peut-être de l'école, ou peut-être qu'à l'école, ils vont aborder dans les les problèmes de fécondation, justement, in vitro, peut-être qu'ils vont expliquer des techniques, et qu'elle reviendra peut-être chez moi en me disant, oh, je trouve ça dégueulasse, ou, enfin, excusez-moi pour le mot, ou c'est génial, et à ce moment-là, je pense qu'il sera le moment opportun de le lui dire. Si jamais ça n'arrive, jamais. Je pense qu'un jour, on avait décidé avec mon mari qu'à un certain moment, on prendrait la décision de lui en parler certainement pour qu'elle sache.
Mais qu'est-ce qui fait, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit qu'elle n'était pas prête avant, en tout cas jusqu'à aujourd'hui.
Maintenant, c'est vrai, elle commence à avoir 14 ans. Elle commence peut-être à s'intéresser peut-être un petit peu plus à la sexualité, mais elle ne nous en parle pas encore vraiment. Donc, je pense que voilà, c'est pour ça que je pense qu'elle n'est pas encore... Non, elle est peut-être prête à l'entendre. Ça, c'est vrai, c'est peut-être nous qui sommes peut-être pas encore tout à fait prêts à le lui révéler, bien qu'on sait qu'on le lui révélera.
C'est ça, c'est difficile, finalement, quand on est parent, et par rapport à une question aussi intime que celle-là. Merci Véronique, en tout cas, d'avoir pris part à la conversation d'aujourd'hui. 070 23 33 23, et SMS 3060. Yvette, sur la page Facebook, bonjour les filles, je suis suivie par PMA. Pour FIV depuis 2 ans après l'ablation de 2 trompes et problèmes chez mon conjoint, j'ai la chance d'avoir un bon moral. Ce qui nous aide, c'est qu'avec le temps, nous avons fini par accepter l'éventualité de ne pas avoir d'enfant. Cela nous permet d'avoir du recul tout en continuant les essais. Nous sommes depuis 1 mois et demi en attente des résultats suite à un bilan de réceptivité après 9 transferts de double embryon. Je pense que l'essentiel est de continuer à vivre et à élaborer un avenir et des projets avec et sans enfant. Courage à tous les couples qui sont concernés par le sujet. Je voulais absolument lire ce témoignage parce qu'il intervient aussi dans un chapitre que vous dénommez Avancer quand même, où là vous parlez de renoncer au bébé couette, de renoncer au bébé biologique, de renoncer à la grossesse, de renoncer à être parent avec le deuil à faire et de réinventer sa vie, parce que ça aussi dans le guide des couples infertiles, cette éventualité-là, elle y est, elle existe et donc il faut en parler, bien sûr. Audrey.
Et dans le message, elle parle d'acceptation et c'est vrai que c'est un joli mot qui est très positif et ça fait du bien paradoxalement peut-être de savoir qu'on peut vivre sans enfant, donc oui, accepter l'éventualité qu'on peut ne pas en avoir, parfois ça fait du bien.
Oui, puis je crois qu'on a, quand les parcours commencent à durer longtemps, on l'envisage forcément, cette possibilité-là, et effectivement à partir du moment où on se dit ça pourrait ne pas marcher pour nous, Mais notre vie va continuer et puis ben notre vie c'est nous qui en faisons ce que nous voulons. Donc voilà, après je pense que ça c'est peut-être ça le fameux lâcher prise dont tout le monde nous rabat les oreilles, c'est en fait c'est l'acceptation. Voilà, je pense que voilà, et ça ne veut pas dire que ça fonctionnera forcément, mais en tout cas ça veut dire que ça pourra nous aider à aller mieux.
Dans quelques instants, c'est Stéphanie qui prend la parole. Demain, c'est son anniversaire, mais c'est aussi une date très très importante par rapport à son traitement d'aujourd'hui, à son désir évidemment d'avoir un enfant. Elle nous en parle juste après ceci. Audrey Leblanc, Audrey Malfionne qui ont écrit ce guide des couples infertiles. Je lis à la page 122 ce chapitre, autorisez-vous, enfin dans ce chapitre, ces phrases qui sont lourdes de sens et de signification, autorisez-vous des parenthèses hors AMP, ne la laissez pas prendre toute la place dans vos vies, faites des projets, rénovez la cuisine, organisez-vous un voyage, mariez-vous si le cœur vous en dit, partez en week-end, sortez boire un verre avec des amis, n'hésitez pas à mettre l'AMP en pause si le besoin s'en fait ressentir, les traitements, les échecs qui s'enchaînent vous épuisent physiquement, surtout madame, et psychologiquement, tous les deux. Il peut être important de savoir dire stop, on arrête. Pour l'instant, on va se retaper, prendre soin de nous, et on reprendra quand on se sentira de nouveau prêt. Ça a été un des premiers témoignages qu'on a eu. Hein, une maman, enfin une future maman qui se mettait en pause. Voilà, pause, qui s'autorisait une pause. Alors, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à aborder, c'est le sexe, en AMP, mais vous en parlez avec beaucoup d'humour aussi, en disant que votre libido en prend un coup, bien sûr. Même quand l'envie n'est pas là, il faut y aller, parce qu'il est hors de question de laisser passer une occasion de concevoir ce bébé qui tarde tant à venir. Enfin bref, on aurait pu faire une émission rien qu'avec ça, et c'est vrai que c'est délicat, c'est difficile, puisque comme vous dites, quand on se sent inutile et déprimé, le sexe n'est pas forcément ce qui nous branche le plus. Donc il y a un fameux décalage par rapport à ça aussi.
Oui, alors que ça pourrait aider, enfin, c'est quand même quelque chose d'assez agréable, et c'est pour ça que c'est d'autant plus facile pour le couple de vaciller, puisqu'il y a, il y a aussi cette proximité qui n'est plus la même et qui... Mais ça revient, hein, vous inquiétez pas.
D'où l'intérêt d'ailleurs des fois de prendre un peu de recul par rapport à la PMA et de se consacrer du temps l'un à l'autre pour savoir que le désir il est toujours là, c'est juste qu'il est mis à mal par les traitements médicaux, mais on s'aime toujours et on se désire toujours. Donc voilà, mais quand on est dedans... On a parfois tendance à l'oublier.
Ouais, et là, on reste positif parce que l'émission le veut aussi, mais il y a des couples pour qui ça casse. Hein. Voilà, oui, ça passe ou ça casse. Et donc, vous en parlez, bien sûr, parce qu'il faut aussi parler de ces couples qui n'arrivent pas, qui n'arrivent pas jusqu'au bout du parcours et ça casse.
Il faut arriver à être fort quand même.
Il faut arriver à être fort, c'est clair.
C'est de l'échec et c'est de l'échec permanent. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose c'est une chose à laquelle on pense. On peut pas s'empêcher d'y penser tous les jours, et c'est vrai que si ça provoque des tensions, enfin échec sur négatif sur tension, effectivement, ben c'est compliqué.
Il faut pas être évident. C'est pas évident. Ça renforce ou ça te déforce, évidemment. Hein.
Oui.
Une expérience de vie comme celle-là. Stéphanie, bonjour.
Bonjour.
Demain, c'est votre anniversaire, Stéphanie.
Oui.
Et donc il y a une prise de sang prévue demain, jour de votre anniversaire.
Voilà, oui. Donc, on est en procédure PMA, FIV-ICSI. Et donc, on a fait ça depuis mars et une prise de sang est prévue demain matin.
Oui.
Jour de mon anniversaire.
Oui. Bon, alors, parlez, parce qu'elles deux, elles veulent en savoir plus, je suis sûre, hein, pour Stéphanie, pour vous encourager et vous donner sans doute le courage nécessaire à demain. Vous dites très confiante au début. Là, j'ai le sentiment, depuis quelques jours... Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Évidemment, on est à l'affût de tous les moindres signes. Et j'ai un peu la voix qui tremble, parce que bon, je ne savais pas que j'allais passer à l'antenne non plus. Et moi, il y a un peu l'émotion qui est là aussi. Mais en fait, c'est vrai qu'on est à l'écoute des moindres signes. On analyse chaque petit ressenti, ou non ressenti d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que... Même si au début j'étais vraiment très confiante, depuis quelques jours je le suis un peu moins, des symptômes qui disparaissent et des choses comme ça. Et alors le pire, c'est si on va voir sur Internet, là c'est vraiment catastrophique. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez difficile. Donc j'espère avoir un très beau cadeau d'anniversaire demain, mais j'avoue que je n'y crois plus trop. Mais bon, on verra bien.
Allez, vous nous envoyez un message. Hein. Moi, je vous envoie des ondes positives. Je suis confiante, je suis confiante. Vous dites très stressant, très dur de faire comprendre aux proches qui nous disent qu'il faut être patient. Donc, à un moment donné, c'est ça. On manque de patience, Stéphanie.
Voilà, en fait, ce qui est difficile, c'est moi, par exemple, ma maman et ma sœur sont tombées enceintes vraiment très facilement, rien qu'en pensant qu'elles voulaient l'être. Et bon, c'est une chance et je suis très contente pour elles. Mais parfois, j'ai du coup un peu l'impression que c'est difficile de faire comprendre aux gens ce qu'on peut ressentir. Elle me disait, en écoutant l'émission, ma maman, elle dit, je me disais parfois que c'est toi qui es impatiente. Mais elle dit, je me rends compte que c'est toutes les personnes qui sont comme ça et qui sont dans le cas. Et donc, c'est vrai que c'est important d'en parler, c'est important de faire des émissions comme ça parce que on est le seul dans le milieu familial à en parler. C'est très difficile à faire comprendre à ses proches ce qu'on ressent, pourquoi est-ce que par moment on est en pleurs, pourquoi est-ce que par moment on y croit, peut-être 2 heures après on n'y croit plus du tout. Et il y a des émotions qui sont vraiment très, très difficiles à faire passer. Moi, j'en parlais encore avec elle cette semaine, et alors elle me disait même, parce que j'étais vraiment en désarroi, et elle me dit, à la fin, elle se culpabilisait presque que ça avait été facile pour elle. Et c'est pas du tout la volonté, évidemment, que j'avais en partageant avec elle mon ressenti, mes émotions, ma tristesse ou des choses comme ça, mais je trouve que les mots sont difficiles à trouver, les ressentis sont difficiles à exprimer, et voilà, et c'est vrai qu'on peut passer vraiment de l'espoir à y croire vraiment fortement à des moments où, voilà, si tout d'un coup, comme je disais, on a les sacs qui dégonflent, ou on a mal au ventre, ou on n'a pas mal au ventre, et voilà, donc c'est vraiment très difficile à faire passer. Et moi, j'ai fait 3 inséminations avant de faire ici, c'est la première FIV. Et moi, par exemple, je me rends compte que c'est vraiment très, très stressant pour moi. Bon, je sais que ça l'est pour tout le monde. Et donc, j'ai dit à mon mari, si ça ne fonctionne pas cette fois-ci, un peu, bon, il ne veut pas venir ce bébé, il ne veut pas venir, tant pis. Et de me dire, je me rends compte, comme vous disiez avant, que j'ai vraiment besoin d'une pause, j'ai vraiment besoin de reposer mon corps, mon esprit, ma tête. Et je culpabilise parce qu'on a 5 embryons qui sont congelés. Et donc, par rapport à toutes ces dames aussi, tous ces couples qui essayent depuis 10 ans ou autant d'années, moi, je me dis, ça fait que 2 ans qu'on essaye et j'ai la chance d'avoir 5 embryons encore congelés. Mais j'ai vraiment besoin de faire une pause, je me rends compte, et de me dire, tant pis, quoi, on ne sait pas en avoir, c'est pas la fin du monde non plus. Mais ce sont des moments qui sont vraiment pas évidents à vivre.
C'est fort, votre témoignage, Stéphanie. Oui, je ressens, waouh, je ressens vraiment. Vraiment votre émotion, vos tripes, quoi. Vous parlez avec vos tripes, là, par rapport à...
Oui, c'est vraiment... Et je voulais aussi vraiment remercier, nous, on fait notre traitement à Liège, et vraiment remercier les équipes de PMA, qui sont vraiment d'une gentillesse, d'une compréhension, d'une disponibilité, même si c'est parfois long d'avoir les rendez-vous, mais une fois qu'on les a, et vraiment les mettre à l'honneur, parce que c'est vraiment de chouettes équipes. Donc, voilà.
Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est quelqu'un qui aurait pu apparaître dans votre livre. Hein. J'entends exactement. Elle apparaît dans tous les chapitres, hein, dans tout ce que vous dites dans votre livre. Elle vous ressemble, quoi. C'est vraiment quelqu'un
qui
vous ressemble.
Dans le même bateau.
Mais on sent qu'il y a une communauté depuis 13 heures, de toute façon.
On se comprend immédiatement. Ouais, ouais. Hein, voilà, on n'a pas besoin de s'expliquer. Elle parle très bien de ce grand 8 émotionnel qu'on vit quand on est en PMA, où on passe d'un moment où on est totalement euphorique, plein d'espoir, au moment où on est par terre et on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à se relever. Et Audrey Malfione parle de faire un dessin avec le chat de cartes, c'est ça. Et en fait, la PMA, on passe sans arrêt notre temps à construire ce château de cartes, il s'effondre, on le reconstruit, il s'effondre, même en dehors des périodes où on attend les résultats. Alors on lui souhaite bien sûr à l'auditrice énormément de bonne chance, on lui dit, on espère que demain elle aura une bonne surprise. On veut aussi lui dire si malheureusement c'était négatif et qu'elle souhaite faire une pause, de ne pas culpabiliser, parce que elle vit quelque chose de pas facile. Il faut qu'elle prenne soin d'elle. Il faut qu'elle prenne soin de son conjoint. Il faut que son conjoint prenne soin d'elle. Message. Et puis, ces embryons congelés, ils sont très bien là où ils sont. Et ils l'attendront. Voilà. Donc vraiment, si elle en ressent le besoin, si elle a besoin de se reposer, qu'elle n'hésite pas, c'est la meilleure chose, le meilleur cadeau qu'elle puisse se faire. Voilà. Mais on espère que ce sera positif. on veut dire aussi que les symptômes, on est gavé d'hormones, donc ça ne veut rien dire, ni dans un sens, ni dans un autre. On en a fait l'expérience, Audrey et moi. On a tout eu, et on a eu tout et son contraire. Oui. Et on a eu Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir du positif et je peux vous dire que la fois où ça a marché pour de bon, je n'avais pas de symptômes du tout. Zéro, zéro, zéro. Ouais. Voilà, donc...
Je pense que c'est une réaction assez normale d'être très confiant au début. Ouais. Quand on vient de vous transférer un embryon, c'est génial. Enfin, on n'arrive même pas à imaginer que ce petit embryon n'aille pas faire sa nidation dans l'utérus. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des jours, on se dit « Ah mais non, mais bien sûr que non, c'est pas une garantie. » Mais non, c'est vrai qu'il y a quand même des chances pour que ça marche pas, et puis le temps passe, et puis la question se fait de plus en plus forte, et donc oui, on arrive à la veille de la fameuse prise de sang, et c'est très très stressant. Donc et moi bon, je me souviens avec émotion de ces veilles de résultats, et oui, c'est vraiment pas facile. Là, ça tombe le jour de son anniversaire, je lui souhaite
d'avoir un très heureux anniversaire.
Elle parle d'autres choses aussi au début de son témoignage. Il était hyper dense, ce témoignage, il y avait vraiment beaucoup de choses. Elle parle du décalage avec la famille, qui, alors elle, heureusement ou malheureusement, sa maman avait l'air presque de culpabiliser, elle,
d'être passé sans problème.
Voilà, ça arrive quand même très souvent. Il y a quand même quelque chose de... Quand on a eu des enfants facilement, on a quand même beaucoup de mal à faire le chemin inverse et de se demander comment ça pourrait se passer, parce que notre expérience, elle est forte quand on a des enfants naturellement, et c'est difficile de se mettre à la place de ceux qui n'ont pas cette chance-là. Et elle parle de l'impatience, et c'est vrai que malheureusement, ça, c'est quelque chose qu'on a tous inauguré, c'est l'impression que notre entourage nous voit comme des personnes impatientes, alors que c'est voilà, on a déjà parlé de la patience, on a parlé de ces parcours qui prennent des mois, des années. Je pense pas qu'on puisse parler d'impatience, mais c'est vrai que parfois c'est ressenti comme ça par l'entourage, et c'est dommage.
Allez Stéphanie, voilà, vous avez fait couler beaucoup d'encre, et dire beaucoup de choses par rapport à votre témoignage, c'est clair, et on a vraiment vibré avec vous, on est tout cœur avec vous. 070 23 33 23 SMS 3060. Après Leblanc et Audrey Malfionne, quelques minutes encore pour présenter ce guide des couples infertiles. Leur guide des couples infertiles sont magnifiques, vos dessins, Audrey.
Merci.
Vraiment très très beau. J'ai pris beaucoup de plaisir à les regarder. C'est vrai que je vous l'ai dit, en général, quand je lis un livre, je dois quand même faire très très vite, parce que j'en ai un à deux par semaine. Mais là, j'ai pris autant de plaisir à regarder les illustrations et puis les textes, vos textes, enfin finalement votre travail en commun est vraiment remarquable. Et j'ai lu ça encore une fois de façon distraite, mais en même temps en apprenant des choses et en étant sensibilisée au problème, à la problématique. Joël, bonjour.
Oui, bonjour.
Dernier message, ce sera le vôtre, Joël, parce que c'est assez interpellant ce que vous nous dites. Après 3 FIV, nous avons fait l'insémination et j'étais rassurée quand la première fois a raté, pour ne pas avoir l'impression que c'était parce qu'on ne savait pas s'y prendre, dites-vous, Joël.
Oui, maintenant c'est vrai que j'ai beaucoup d'émotions aussi, comme les précédents.
oui,
c'est vrai, parce que comme on ne sait pas pourquoi ça n'allait pas.
Oui, oui, oui.
Ben, je me suis dit, et quand ils y arrivent, quand ils le font eux, si ça arrive, ça veut dire que c'est nous qui ne savions pas.
Oui, mais je comprends parfaitement ce que vous écrivez, mais voilà pourquoi on voulait vous entendre. Et aujourd'hui, Joël.
Aujourd'hui, c'est merveilleux. On a des jumeaux de 9 ans.
Ouais, c'est ça, ok.
Voilà.
Et vous en parlez toujours avec la même émotion, quoi.
Mais surtout après votre émission. Et en plus, la précédente qui allait avoir son anniversaire. Chez nous, le prélèvement des ovocytes a été fait le jour de notre anniversaire de mariage.
Oui, ça ravive des choses. Et c'est là qu'on se rend compte, que je me rends compte, moi, pour ne pas être passée par là, depuis 13 heures, que tous vos témoignages, en effet, se ressemblent et sont porteurs d'une immense émotion, que c'est vraiment une grande communauté qui vous rassemble. Alors, entendre ça, Audrey, ça vous parle ? Ça vous parle à vous ?
Oui, parce qu'on doute en permanence de notre capacité à faire des enfants quand la nature ne nous donne pas cette satisfaction. Donc oui, parfois c'est... Moi je comprends le témoignage dans le sens où... Voilà, la médecine, elle ne fait pas mieux que la nature. Elle fera jamais aussi bien que la nature. Et parfois, voilà, ben moi je comprends tout à fait ce témoignage-là, parce que ça nous rassure sur notre capacité finalement... à nous, à faire des enfants. Si la médecine fait pas mieux que nous, finalement, on vaut pas rien, nous, dans notre façon d'essayer de faire des enfants. Donc oui, la médecine ne fait pas mieux que nous. La médecine n'est pas plus forte que nous. Elle n'est pas plus forte que la nature, en tout cas.
Oui, puis il faut dire que L'infertilité, c'est une blessure de l'ego aussi. Nous, quand on nous dit vous n'arrivez pas à avoir d'enfants naturellement, ce qu'on entend, c'est qu'on vaut rien, c'est qu'on est nul, c'est qu'on n'est pas capable de faire comme les autres. Et finalement, je comprends Joël parce que elle s'est sentie soulagée de se dire c'est pas ma faute. Voilà, je n'y suis pour rien, ce n'est pas ma faute. En tout cas, félicitations pour ces jumeaux et on est très touchés aussi par son émotion.
Et voilà, on arrive à la fin de cette émission, je voulais juste lire ce dernier message. Nous avons eu une fille par PMA, Sylvie, il y a 4 ans, et un deuxième embryon avait été congelé. Nous l'avons réinséminé l'année passée, mais ça n'a pas marché. Oui. Ayant 45 ans, et suite à votre émission sur les familles d'accueil, nous avons décidé de nous proposer en tant que famille d'accueil d'urgence, car d'autres enfants et bébés ont besoin de nous. Mm-hmm. Voilà tout simplement la position d'une maman, puisque leur fille est née par PMA, il y a 4 ans. Mais merci à vous deux d'avoir abordé ce sujet très sensible, très délicat, et grâce à votre livre, voilà. On l'a pu le passer d'une façon légère, voyez, tout en suscitant beaucoup d'émotions de la part de nos auditrices qui se sont exprimées aujourd'hui. Vous pourrez toujours écouter l'émission en podcast. L'émission Aller-Retour suit, ne bougez pas.
Vivacité, ma radio complicité.